Les 101 daltoniens. Merlin s'ennuyait. Il trouvait le monde fade, tellement fade. Il percevait le ciel bleu, les gros nuages noirs qui parfois le couvraient. Il rêvait à un autre monde où il y aurait plein de couleurs. Il était heureux près des champs de blé jaunes sous le ciel bleu. Il aimait beaucoup Van Gogh. Les autres peintres, qui utilisaient peu le jaune et le bleu, l'intéressait moins. Pourtant, Merlin exerçait le métier de plasticien, bien qu'il soit daltonien. Il avait une allure débonnaire, portait une grosse moustache et ne quittait jamais son petit chapeau rond. Ses rêves, il disparaissait justement dès qu'il le quittait, son chapeau. C'était étrange, mais c'était ainsi. Il perdait sa magie, son intelligence et sa mémoire dès qu'il ne l'avait pas sur la tête. Ses rêves le conduisirent un jour, pendant son sommeil, à imaginer avec plus d'intensité encore certaines couleurs et leurs mélanges. Il soumit ses yeux à de multiples exercices et à force de magie, il réussit finalement à supprimer son handicap. Les daltoniens ne voient que le jaune et le bleu. Tout le reste est noir et blanc. Merlin venait d'avoir 50 ans et il était grand temps qu'il commence à voir le monde. Un grand projet l'anima. Il convoqua tous ses amis daltoniens. Il s'arrêta quand le 100e eut répondu à son appel. C'était un enchanteur. Et tous se demandaient ce qu'il avait en tête. Quand ils furent tous là réunis, Merlin leur annonça qu'il avait, au bout de maints exercices de ses yeux, vu le rouge et le vert, enfin, et qu'il souhaitait leur faire partager sa découverte. Bien sûr, ils étaient tous enthousiastes. Ils se mirent au travail et travaillèrent jour et nuit à percevoir les couleurs inconnues. Merlin leur apprit à utiliser leurs yeux d'une autre manière et au bout de quelques jours, des résultats encourageants commençaient à venir. Oui, leurs yeux malades réagissaient différemment. « Bingo » cria-t-il, « ça marche !» Ils commençaient tous à voir le rouge pour la première fois et c'était pour eux une pure merveille. Le rouge. Il devait se reposer un peu maintenant, car la vision toute nouvelle de cette couleur faisait battre leur cœur trop vite. Son rythme s'accélérait. Pour se reposer, ils plongèrent leurs yeux dans les bacs de bleu. Quand ils se sentirent plus calmes, ils regardèrent les bacs de jaune pour se réveiller. Merlin prononçait des phrases énigmatiques, accompagnées de gestes étranges, et dans les yeux de tous, une synthèse se fit entre ces deux dernières couleurs. Il percevait le vert également. Comme il y avait maintenant des bacs de rouge qu'ils identifiaient tous comme tels, Merlin les installa en plein soleil et leur dit qu'il y avait une autre façon de voir le vert. Tout en prononçant des mots et en faisant des gestes, il leur demanda de les fixer avec force quelques instants et de refermer les yeux. Le vert apparaîtrait alors dans l'obscurité. Merlin appelait ce phénomène la persistance rétinienne inconnue chez les daltoniens. Et effectivement, ils virent tous le vert. Il venait de découvrir deux nouvelles couleurs, le rouge et sa couleur complémentaire, le vert. Ils avaient travaillé toute une semaine avec passion. Quand le 8e jour arriva, ils se reposèrent. Merlin était content d'eux et avait organisé une fête chez lui. Beaucoup de victuailles étaient sur la table, des fruits, des légumes, surtout. La viande n'était pas nécessaire. Merlin leur demanda de s'entraîner à exercer leur sens sur toutes les couleurs en mangeant. Il n'y avait là que du rouge et du vert. des tomates entourées de feuilles de salade, des courgettes cuisinées avec des poivrons rouges, des brocolis et des choux avec des carottes. Au dessert, il y eut des fraises avec leurs petites feuilles en collerette, des cerises et des nectarines d'un rouge plus foncé. Tous distinguaient très bien les différentes nuances de vert et de rouge, et plus personne ne chanterait cette chanson. « Idiote ! Attention, attention ! Voilà les Dalton !» Fin de la nouvelle. Fin de la nouvelle, les 101 daltoniens. L'église rouge. C'est un tableau de Kandinsky. On ne voit qu'elle. L'église, bien rouge, sur un fond vert. Elle est la note tonique sur une dominante verte et bleue. Elle ferme l'horizon, avec le rideau d'arbres sur le même plan. L'espace est court pour un paysage, mais sa profondeur est donnée néanmoins par l'ombre des arbres très allongée qui part en oblique vers le devant du tableau et vers le premier plan. C'est un matin de bonne heure, ou un soir, au crépuscule. Mais l'heure de la journée n'est pas un souci pour le peintre. Nous ne sommes plus dans l'impressionnisme. Il s'agit sans doute de la ville de Murnau, en Haute-Bavière, où résidait Kandinsky vers 1900. Cette peinture est encore descriptive. On met facilement des noms sur l'espace coloré. Le vert du sol va du plus clair au plus foncé, presque jusqu'au noir. Au tout premier plan, une pièce d'eau où se reflètent les trois éléments du tableau et les trois couleurs. L'église rouge, le sol vert et le ciel bleu. Au fond, quelques silhouettes très sombres de sapins. Quelques années plus tard, on ne reconnaît plus rien. La peinture n'est plus descriptive. Kandinsky imagine, le premier, un espace fait uniquement de formes, de lignes, de couleurs, dans un certain ordre assemblé, sans aucun souci de transcription du réel. Il est l'inventeur de l'abstraction. En 1900, la photographie existe, elle est là pour faire le travail de reproduction de la réalité. Le peintre est ainsi libéré de ce travail de tâcheron sans grand intérêt pour l'expression. Il peut plonger dans la surface à peindre au gré de son inspiration, de son état d'âme. Dans l'église rouge de 1900, on peut sentir ce qui se prépare. Le trait est épais. Il n'y a pas de dessin. Les grands arbres n'ont pas de feuilles. Ce sont des taches colorées déjà. Rien n'est précis. Tout est dans la suggestion. Les formes du bâtiment sont troubles, non rectilignes comme le voudrait l'architecture. Si l'on retourne le tableau, un autre paysage apparaît, encore moins réel, avec des taches colorées plus accentuées encore. C'est le reflet dans l'eau, mais il y a peu de différence entre la réalité et le mirage. Deux paysages tremblés se superposent. L'un est seulement plus tremblé que l'autre. Une anecdote dit qu'un jour, en arrivant dans son atelier, Kandinsky trouve un de ses tableaux posé à l'envers. Il ne le reconnaît pas tout de suite, mais le trouve très beau ainsi. L'idée était née dans son esprit de faire de l'abstraction et de laisser parler l'imaginaire en le déconnectant du réel. Kandinsky chante en peignant. C'est une fête de tous les sens. Dans l'église rouge de 1900, il entend les petites notes aiguës du violon dans le rouge de l'église, les notes graves du violoncelle dans le vert foncé de l'ombre. L'ensemble est calme et profond et nous invite à entrer dans ce lieu. Des musiciens jouent sous le bleu du ciel au milieu des sapins. Il est le chef d'orchestre. Le bleu envoie des notes de cristal. Ils s'envolent avec l'orchestre au-dessus des toits dans un rêve à la Chagall, mais sans les dessins. Il pense à ses futures toiles où il ne représentera plus rien de reconnaissable, d'identifiable. Il osera. Le premier. Chaque spectateur fera son commentaire à sa façon et verra son propre espace pictural, trouvera dans ses lignes abstraites sa propre subjectivité. Il est temps pour lui de quitter les formes connotées, de rejoindre le spirituel, de s'envoler dans la musique des couleurs. Pour moi, le rouge et le vert ont encore une fois parlé ensemble. Il faut encore éclater leur complémentarité. Fin de la nouvelle L'Église rouge. Achille. Achille était au chômage. Rien, aucun emploi auquel il pouvait répondre. Il était comédien. Il s'était déguisé en carotte géante pour Auchan, en potiron avec des grandes oreilles pour Carrefour, puis dans un théâtre pour enfants en petit nain, aux côtés de Blanche-Neige. Tout cela devenait vraiment déprimant, mais rien, aucun rôle qui puisse lui remonter le moral ou lui redonner confiance en lui. Il était un légume, on le considérait comme un légume, un nain. Sa réputation de comédien était en jeu. Entre ses doigts et ses poches, il s'entraînait aujourd'hui à quelques tours de prestidigitation qu'il pourrait peut-être proposer, faire apparaître, disparaître quelques objets. Sa compagne le mettait en boîte et l'appelait « mon gros chou » en s'enroulant autour de ses épaules ou bien « mon pauvre lapin ». Achille sentait venir depuis quelques années la fin de son prestige de grand comédien. Il avait été célèbre, mais n'était-ce pas dans une autre vie ? Il fallait qu'il agisse vite, non seulement pour son amour-propre, mais aussi pour l'état de ses finances. Il réfléchissait jour et nuit aux moyens de s'en sortir, comme on dit. Sortir du désert, sortir du vide, du néant. Il lui fallait obtenir un beau rôle qui chasse cette tristesse. Un matin, en s'éveillant, en enfilant ses pantoufles, il s'était dit que ce matin serait le dernier matin de galère. Il prit un café fumant. Il fit quelques exercices respiratoires, s'habilla, mit son chapeau et sortit de chez lui comme s'il allait à la conquête du monde. D'abord, faire table rase, se dit-il. Il faut que je fasse table rase. Et, comme le philosophe Descartes, il se mit en chemin avec cette idée de remettre en doute tout ce qu'il savait ou croyait savoir. Il fit le tour de ses certitudes, les analysa, les reconsidéra toutes, une à une, les disséqua. Les sens nous trompent. Il faut que je repasse par la raison toutes mes sensations. Et il marchait toujours, doutant de tout et même de sa marche elle-même en cet instant. Peut-être je rêve que je marche, mais je ne marche pas. Il se pinça le bras pour être sûr qu'il allait en éprouver de la douleur. Oui, ça faisait mal. Il se rassura. Il mit sa main droite dans sa poche et en fit jaillir un foulard rouge. Puis de sa main gauche, il tira un foulard vert. Ses deux bouts de soie le réveillèrent tout à fait. Il pouvait les toucher, en éprouver la douceur. « Bon, je suis bien en vie, je sens mon corps, je sens ce qui m'entoure. » Les deux couleurs vives l'impressionnèrent, lui semblèrent plus réelles que le reste. « Ma vie va changer !» criait-il. « Il le faut ! Je le sens !» Les deux mains dans ses poches maintenant, il considéra sa veste usée d'une couleur douteuse entre le vert foncé et le brun, et il ne supporta plus de se voir là-dedans. Il s'arrêta de marcher, quitta sa veste et la retourna. L'autre côté apparut, lumineux, d'un rouge éclatant, d'une couleur plus réelle que le vert. « Voilà, se dit-il, ce que je voulais. C'était simple, je n'y avais jamais pensé. Je me sens déjà mieux, plus conquérant, plus volontaire. Avec ma veste rouge, je vais obtenir un grand rôle. Je ne suis plus un loser, on va me remarquer, on va me craindre. On ne me refusera plus rien. » Il s'était remis à marcher, il avait peu à peu quitté la ville. Il se trouvait maintenant en bordure de champ et allait d'un pas victorieux, sûr de lui. Il avait chaud. La réflexion avait fait monter la température dans son corps. Il remonta tout en marchant ses jambes de pantalon, quitta sa veste pour l'agiter autour de ses mollets en guise d'éventail et se ventila les orteils. Il entendit soudain un bruit de galop, de sabots. Qu'était-ce ? Mes sens me trompent encore ? Se dit-il. Non, il ne rêvait pas, il fut violemment bousculé, jeté à terre. Son chapeau vola. Un taureau ? Ma vie va changer ! Eut-il le temps de crier, et il s'évanouit. Moralité : ne jamais retourner sa veste. Fin de la nouvelle Achille. Grand magasin. La Samaritaine est partie sans crier gare, laissant derrière elle un décor de dévastation, de ruines impressionnantes. La rue de Rivoli montre son ventre ouvert. Une bombe est tombée sur le magasin. Une énorme nostalgie me saisit. N'était-ce pas là que je venais me promener la plupart du temps, sans rien acheter ? Là que j'errais parmi des rayons souvent sans vendeur, comme dans un bateau fantôme ? Cet immense paquebot est tombé. Je venais y chercher le dépaysement, le retour à une époque ancienne que je ne connais pas. C'était comme un rituel, un voyage, peut-être inconsciemment, en raison du nom, un voyage jusqu'à Samarie, toujours renouvelé, toujours différent, vers cette ancienne capitale juive, ou peut-être à la recherche du Samaritain, décrit dans les textes sacrés. Tellement bon. Je venais y chercher du plaisir, de l'insouciance, de l'étonnement, y satisfaire aussi ma curiosité. Il y avait toujours beaucoup à voir en ce lieu mythique. J'admirais l'architecture, art nouveau et déco, aux lignes souples, décoratives, les grandes galeries circulaires, les montants sculptés. Je venais voir comment on vivait à la fin du XIXe siècle à Paris, dans ces quartiers un peu chics. J'aimais les structures métalliques, les verrières, je trouvais ces lieux magnifiques. Les rares vendeurs étaient groupés et discutaient entre eux. On osait à peine intervenir pour une question d'ordre purement matériel sur les produits exposés. À la vente, je supposais. L'un d'eux se dévouait, à regret, à votre question, après avoir jeté un regard de complicité à ses collègues, afin de marquer son ennui, d'accomplir son devoir de vendeur. Le même phénomène existe dans tous les grands magasins. Vendre. Quelle activité ingrate, dépourvue d'âme et d'intérêt. Vendre. Dans un grand magasin surtout. La vente autrefois revêtait encore un caractère humain. Il y avait un lien entre l'objet à vendre et le vendeur, peut-être même un lien de création entre un artisan et son propre travail. Plus de lien aujourd'hui avec les produits. Tout est devenu anonyme, impersonnel, froid. Ici, au moins, il y avait la beauté du lieu pour compenser l'ennui. Le vendeur répondait à vos questions, tant bien que mal, par un discours appris par cœur, et s'en retournait à son groupe pour finir son histoire. Ah, la belle Samaritaine, le faisait-il encore rêver d'eau fraîche, et peut-être d'amour dans ce paradis ? De quoi parlait-il ? Pensait-il à Elle, au milieu des courbes et des volutes de l'art déco, pensait-il, à cette grande histoire, comme moi. Je déambulais dans le magasin au gré de mes envies, passant de la bijouterie à la maroquinerie, des ustensiles de cuisine à la décoration, des parfums aux parapluies, de la librairie aux vêtements de sport, d'un étage à l'autre, d'un rayon à l'autre, d'une conversation à une autre, toujours entourée par la superbe architecture intérieure. Puis, je traînais finalement au milieu des bas, des chaussettes multicolores, des collants. Mes oreilles captaient au vol une fin de conversation entre une cliente et sa vendeuse. « Effet ventre plat ? Effet lifting ? Ou bien culotte gainante ? Fesses galbées ? Effet slipant avec remont de fesses ?» Je redescendais immédiatement de mon ciel et j'éprouvais de la tristesse en pensant qu'une certaine époque était belle et bien finie, où l'architecture était exubérante, mais le vêtement et le sous-vêtement plus retenus. Ah, la belle Samaritaine! Comment avait-elle fait pour se passer de tous ces subterfuges? Fin de la nouvelle. Les voyelles. Une fois de plus, j'avais une migraine ophtalmique. Celle-ci se déroulait toujours de la même façon. Je ne voyais plus rien d'un œil. Ça me prenait à gauche ou à droite. Une espèce de voile latéral occultait ma vue, comme si je regardais à travers un obturateur d'appareil photo. Mon champ de vision se fermait de tous côtés sur des cloisons noires, comme si mes yeux entraient à l'intérieur d'une boîte. Puis les images se mettaient à sauter en lançant des éclairs de lumière et des spirales concentriques. Un orage silencieux tapissait le fond de mon œil. Pendant une vingtaine de minutes, rien n'y faisait. Je n'avais jamais réussi à me soigner. Il fallait attendre la fin de l'orage. Il se poursuivait régulièrement par quelques paralysies des bras, du bout des doigts, de la bouche, entraînant des troubles du langage, l'impossibilité de prononcer les mots dont j'avais besoin était accompagnée d'une perte de leur sens, comme si tout s'arrêtait en même temps. Des syllabes que je ne reconnaissais pas s'assemblaient et se défaisaient sans qu'aucun mot connu n'arrive à ma mémoire, ne fasse jaillir un sens. Je n'avais plus la reconnaissance des mots. Pendant ces instants-là, j'avais la tête vidée de tout savoir et même du plus élémentaire. Je mettais alors tout en œuvre pour retrouver mon vocabulaire et sa fonction sémantique. J'annonnais des syllabes. J'essayais de les prononcer d'une manière appuyée, lente, en cherchant des passerelles de sens, comme l'eût fait un enfant de 3 ans. Je pensais à Dante, associant des couleurs aux mots. L'espoir à la couleur verte, par exemple. Je prononçais les sons. Espoir aussi doucement que possible pour que ma langue ne fourche pas et pour éviter que le mot ne m'échappe. J'appuyais ensuite sur les 3 sons du mot charité et sa couleur rouge. Je m'imprégnais de cette couleur en fermant les yeux pour tenter de couvrir les éclairs. Rimbaud venait ensuite à mon secours. Il s'imposait dans le noir de mes yeux avec le son « A », puis dans le blanc avec le son « E ». Le O, oméga, rayon violet du regard des femmes. Le O, bleu, suprême clairon, silence traversé des mondes et des anges. Je partais en voyage avec le poète. Mon infirmité momentanée me faisait entrer au pays des merveilles en m'amenant au cœur des mots. Rimbaud était le meilleur guérisseur pour le mal qui m'atteignait. J'éprouvais la colère de son i rouge, rouge de sang, rouge des rires de lèvres belles. J'éprouvais le calme du son u, vers d'immensité reposée de vibrement des mers, des paix, des pâturages, des paix, des rides. Migraine bienheureuse qui me faisait entrer de plein pied dans le monde du rêve et de l'enchantement. Je n'arrivais plus à prononcer les mots, mais je les inventais dans l'épaisseur du dedans, dans l'intérieur de ma langue, dans le non-dit de mes idées. Ils éclataient, se combinaient entre eux à l'infini, et de toutes leurs couleurs, dans le secret de mon esprit et la somptuosité de mon impuissance. Ils se déployaient, resplendissant d'irréel, magnifique, suffoqué d'intelligence, renversé, bousculé dans leur logique. Rimbaud me tendait la main. J'étais avec lui sur les chemins. Je partageais ses bonheurs, ses extases, ses illuminations. Je contemplais la naissance de ses écrits foudroyés de beauté. J'étais actrice avec lui de ses vers immortels. Où puisait-il le chant de ses couleurs? De quelle cachette? De la terre ou de l'air? Où avait-il entendu les cris du rouge? Ceux du sang? Ceux de la vie? Ou ceux des rires? Où avait-il perçu la calme fraîcheur du vert? Ces prairies odorantes et sucrées? Ces nuits humides et douces. La migraine flamboyante durait, dans sa totalité, une petite heure, au bout de laquelle commençait le mal de tête proprement dit. Ce dernier symptôme n'était plus rien comparé au précédent, et je savais que c'était la fin du sourd tremblement de terre qui m'agitait d'une façon si mystérieuse. Il y avait eu cette folie, chaque fois une petite heure de folie. Quand le mal de tête arrivait, la vie ordinaire était de retour. Laborieuse, pesante, douloureuse, le voyage était fini. Il fallait retrouver le quotidien, dire adieu à Rimbaud et à la magie des mots. Les mots, ils étaient tous revenus à leur place. Ma mémoire les identifiait à nouveau avec leur cortège de sens, de raison, de contingence, de reconnaissance, d'utilité. Il ne restait qu'un triste pays. Protégé du vent et de l'orage, sans surprise, sans envolée, sans couleur, sans rêve. Tout était bien rangé. Et la machine à penser fonctionnait à nouveau dans sa grise logique. Fin de la nouvelle. Mateur de Rivet. Marc était peintre en bâtiment. Il passait d'un chantier à l'autre, avec ses peintures et ses pinceaux. Il avait rêvé de devenir artiste peintre, mais on n'a pas toujours la vie qu'on a rêvée. Le matin, très tôt, il quittait sa femme pour partir au travail, les chantiers commencent tôt. Il n'était pas malheureux, même si tout ça manquait un peu de fantaisie. Des salons blancs, des cuisines blanches, des chambres blanches, des WC blancs, des murs et des plafonds. Des murs et des plafonds blancs, toujours blancs. En France, le bâtiment n'est pas original, les voitures officielles sont noires, les murs sont blancs, le français n'aime pas la fantaisie. Aussi, Marc arrivait-il à son travail résigné, désespérant voir arriver un changement. À la pause de 10 heures, il parcourut distraitement les journaux du jour, l'actualité, les offres d'emploi. Il y découvrit un appel d'offres pour repeindre la tour Eiffel. Il n'avait jamais songé que cette vieille dame pouvait avoir besoin d'un coup de pinceau. Cette idée l'amusa franchement et dans l'après-midi, il téléphona au numéro indiqué pour plus de renseignements. Oui, la mairie de Paris cherchait un peintre qui n'ait pas peur du vide, ni froid aux yeux, un acrobate en quelque sorte. Il s'inscrivit immédiatement pour la place, il allait enfin s'amuser. Plus de blanc, mais du noir, ou en tout cas une couleur plus foncée qui changerait ses habitudes. Il donna congé à son chantier et commença dès le lendemain. Quand il arriva, il n'était pas seul sur les lieux. Une complète remise à neuf de la tour était programmée. Il fit la connaissance de Robert, le matteur de rivets, qui avait pour mission d'aplatir les têtes des nouveaux rivets, assemblant entre elles les poutrelles métalliques. Il travaillait à la masse et à grand bruit. Le chef des travaux s'adressa aussitôt à Marc. Il fit rapidement connaissance et après quelques discussions, il lui donna carte blanche pour le choix de la peinture. Marc était heureux. Enfin, il allait prendre du plaisir dans son travail. Il demanda à son chef de commander la totalité nécessaire de peinture dans les deux couleurs rouge et vert, en égale quantité de la peinture qui ne coule pas, qui sèche très vite, afin de commencer par le bas et que la restauration se fasse de bas en haut, peinture et rivets. Marc avait comme projet de peindre les quatre pieds et les quatre côtés alternativement avec du rouge et du vert, un pied rouge, un pied vert, un pied rouge, un pied vert. Dès le lendemain, son travail commença. Il peignit d'abord les pieds rouges un sur deux. Il s'agitait au-dessus du vide comme un beau diable sans crainte, son pot suspendu à l'un des rivets non encore maté. Un photographe était venu pour immortaliser l'événement, le peintre de la tour Eiffel. Marc, suspendu dans les airs, un pinceau dans la main droite, semblait diriger un orchestre ou danser en faisant des entrechats. Aucun vertige, aucune peur ne se lisait sur son visage. Il avait même gardé son chapeau. Le matteur matait, le peintre peignait, le photographe photographiait. Enfin, sa vie bougeait. Enfin, son désir de plonger dans les couleurs se réalisait. Il grimpait dans les étages avec le rouge. Il grimpait. Le photographe ne perdait aucune de ses postures. On entendait parfois deux clics entre deux coups de masse. À la pause de 10 heures, tout le monde se reposait du bruit. Le silence revenu encourageait les confidences. Les quatre hommes parlaient de leurs femmes respectives, parfois de leurs enfants. Marc n'en avait pas et disait qu'il était fidèle à sa femme. Robert, par contre, s'amusait bien avec ses multiples maîtresses. C'était un vrai jeu. Le lundi, Laurie. Le mardi, Marie. Le mercredi, Merci. Le jeudi, Jackie. Le vendredi, Valérie. Et le samedi et le dimanche, c'était sa femme, Didi. Une maîtresse et une femme en même temps, moi jamais, avait dit Marc. Et les deux autres approuvèrent. Le chantier se poursuivit jusqu'au sommet. Les pieds et les côtés rouges étaient terminés. Marc redescendit pour monter le vert. Il grimpait dans les étages avec le vert. Il grimpait. Le photographe toujours près de lui. Tout fut fini un jeudi et Robert invita Jackie au restaurant de la tour pour fêter la fin des travaux. Ils s'assemblèrent tous les cinq. Au bout d'un instant, Robert cria « Ciel, ma femme !» Il venait de l'apercevoir au bras d'un homme bien pris, qui croyait prendre. Le procès. Le jugement eut lieu un vendredi. Lucien était assis sur le banc des accusés, son avocat à ses côtés. Son visage était serein, il avait l'air prêt à répondre aux questions du juge, il ne manifestait aucune angoisse, aucun abattement. Son avocat se pencha pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille et bientôt les hostilités commencèrent. Je jure de dire la vérité, toute la vérité. » Levez la main droite et dites « Je le jure. » « Je le jure. » Veuillez décliner vos noms, prénoms, âge et qualité. Le chat, Lucien, 38 ans, magicien. Comment expliquez-vous, commença le juge, que l'on ait trouvé votre femme baignant dans son sang à côté de vous? Je n'explique pas, monsieur le juge. Comment expliquez-vous que vous n'ayez rien entendu, bien que le corps de madame le chat ait montré des traces de lutte? L'arme du crime a été retrouvée chez monsieur Jean, dans la boucherie, sise au numéro 39 de votre rue, juste en dessous de votre appartement. Je n'explique rien, monsieur le juge. Je suis végétarien. Soyez sérieux, monsieur le chat. Et pourtant, vous criez votre innocence, n'est-ce pas? Oui, monsieur le juge. Je le jure, je n'ai pas tué ma femme. Je n'ai rien entendu. Je ne sais rien. Il faudra que je demande à Nestor. Qui est ce Nestor? Quel est ce nouveau personnage dont vous n'avez jamais parlé? C'est mon ami. Quel rôle a-t-il joué dans cet assassinat? Je ne sais pas, monsieur le juge. Ma femme n'a pas été assassinée. Comment ça? On la retrouve baignant dans son sang. Elle s'amusait, peut-être? Oui, peut-être, dit Lucien. Et maintenant, elle s'amuse encore à mourir, sans doute? Ma femme est très joueuse, vous savez, très simulatrice. Nous avions un numéro qui marchait bien avec Nestor. Et tout ce rouge autour d'elle, qu'en faites-vous? Mais rien, monsieur le juge, que voulez-vous que j'en fasse? Le médecin légiste a bien conclu à la mort, n'est-ce pas? C'est son problème, monsieur le juge. Germaine n'est pas morte. Ne niez pas l'évidence, monsieur le chat. La mort a été scientifiquement prouvée. Je ne crois pas à la science, je crois à ma femme, monsieur le juge. Mais enfin, tout ce rouge! Je ne sais pas, monsieur le juge. Parlez-moi de Nestor. C'est un ami qui travaille avec moi. Vous avez dit que vous aviez un numéro avec lui. Quel numéro? Oui, avec lui et ma femme. Et ce poignard, retrouvé chez le boucher, juste en bas de chez vous. C'est un faux poignard, monsieur le juge. Regardez-le bien, vos experts ne savent pas faire leur travail. La lame est rétractile. Elle rentre dans le manche. Lucien fit un geste vers l'arme pour une démonstration, mais on le retint immédiatement pour l'empêcher de bouger. Il avait des fourmis dans les mains et commençait à donner des signes d'énervement devant les nombreuses questions du juge. « Vous n'avez pas le droit de toucher les pièces à conviction, monsieur le chat. Contentez-vous de répondre à mes questions. » Le juge énervait Lucien. Il en avait marre des questions. Mais il se préparait à écouter le verdict sans manifester ni déception ni regret. Les faits remontaient à 2 ans. Mais l'affaire n'avait pas suivi son cours normal comme une affaire ordinaire. À cause de son côté atypique, la femme de Lucien avait été déclarée cliniquement morte par les experts, car son cœur s'était arrêté de battre, apparemment. Puis la justice s'était désintéressée de la soi-disant morte. Ils jouaient tous les trois avec Nestor sur la scène d'un théâtre parisien qui s'appelait Les Maîtres du Mystère. Leur spectacle tournait avec succès. Germaine y jouait la morte aux côtés de Nestor, qui lui envoyait ses faux couteaux, du faux sang, éclaboussait les alentours. C'est au cours d'une répétition du spectacle chez eux que le concierge était monté apporter le courrier et qu'il avait découvert Germaine dans son sang. Il avait prévenu la police. Depuis, Lucien était accusé d'avoir berné la police, puis la justice, faute de mieux, car on n'avait jamais retrouvé le corps de la morte. Le juge reprit. Je vous énonce les chefs d'accusation, monsieur le chat. Mystification de la police, tromperie, manque de respect de l'appareil judiciaire. Ce rouge déjà, c'était de la peinture, monsieur le juge, on s'entraînait. Et Nestor, ce soir-là, s'était un peu énervé contre ma femme. Vous avez dit au cours d'une audience précédente que madame le chat était yogi et pratiquait le chamanisme, qu'elle savait arrêter son cœur à la demande et le remettre en route. Pourquoi n'avez-vous rien dit au début de l'enquête? C'était le secret de Germaine. Je n'avais pas à m'en mêler. Savez-vous que vous vous êtes joué ainsi des fonctionnaires de l'État et que ça va vous coûter cher? Comment va madame le chat? Elle va bien, merci. Nestor lui avait juste fait quelques égratignures. Ils se sont un peu battus à cause d'une histoire idiote de bottines, je crois. Mais j'étais dans la pièce d'à côté et je n'ai rien entendu. Et Nestor, vous n'avez toujours rien à nous dire sur ce personnage? C'est seulement mon ami, monsieur le juge, dit Lucien. Il n'a aucune responsabilité dans l'affaire. Soudain, il y eut un mouvement de foule au milieu de l'assemblée. Toute la salle trembla. Une vague traversa l'audience, comme une vague de peur. Le procureur de la République, l'avocat général, président du tribunal, le greffier, tous étaient verts. Tous se levèrent précipitamment, les uns derrière les autres, et quittèrent le tribunal en courant. Un énorme ours brun se dirigeait vers Lucien qui seul était resté sur les gradins. Il porte une casquette verte et se déplaçait sur ses pattes arrière, chaussé de bottines vertes également. Il avait un air féroce et redoutable. Les gendarmes de permanence dégainèrent pétrifiés, mais se ravisèrent en voyant une femme à son bras. « Nestor !» cria Lucien. « Mon bon Nestor, sors-moi vite d'ici !» Et il se précipita pour embrasser Germaine. Nestor grogna. Fin de la nouvelle. Pierrot. Comme tous les soirs, oncle Paul rentra son étalage vers 20 heures. Il commençait à faire un peu froid. Le mois d'octobre était arrivé, l'automne, le vent. Les feuilles s'engouffraient en tourbillonnant dans le magasin. Aussi laissait-il sa porte fermée maintenant pendant la journée. Une clochette tintait pour l'avertir de l'arrivée d'un client. Il était ainsi bien tranquille et pouvait rêver à son aise, sans crainte de désagrément. Oui, il rêvait. Il avait passé la soixantaine, mais les rêves, tout au long de sa vie, l'avaient beaucoup occupé. Ce n'étaient pas des rêves de puissance ou de pouvoir ou d'argent, mais des rêves doux. Il était amoureux de l'univers enfantin, des livres d'images et des couleurs. Il aimait aussi la beauté de la nature, la force de la terre et l'art de la peinture. Ses jours coulaient tranquillement. Il était calme et heureux. Son petit commerce était suffisant pour subvenir à ses besoins. Le soir, chez lui, il lisait beaucoup et feuillettait sans relâche ses livres du Quattrocento, la peinture italienne qu'il affectionnait le plus. Son commerce était à Paris, mais il avait hérité de sa mère une maison entourée d'un grand jardin pas loin de là. Dans sa campagne, il s'entraînait régulièrement à parler aux oiseaux, comme le François de Giotto. Il n'y arrivait pas encore tout à fait et disait qu'il fallait encore alléger son âme. Dans la plus haute pièce de sa maison, il avait fait enlever le plafond pour faire apparaître la charpente, mais la charpente de bois elle-même avait été remplacée par une charpente transparente recouverte d'un toit de verre. Le tout était rétractable à l'aide d'un simple bouton, comme dans une voiture décapotable. La lumière inondait les murs de cette pièce incroyable en toute saison. Des fresques les couvraient, toujours en chantier, sans cesse recommencées. Des échafaudages permanents y étaient installés, ce qui empêchait totalement de voir l'avancée du travail. Paul s'adonnait à l'art de la fresque. C'était sa passion. Il partait tous les vendredis soirs et revenait lundi. Il ouvrait sa boutique dès le mardi vers 11h30 du matin et n'en bougeait plus jusqu'au soir. Il mangeait sur place à midi au milieu de ses livres, il y en avait partout. Depuis longtemps déjà, les rayonnages ne pouvaient plus tous les contenir et il avait installé partout des tables, des bancs, des escabeaux, des caisses et des cartons. C'était une ancienne boulangerie qu'il avait transformée en librairie. Il aimait dire que la nourriture de l'âme avait succédé à celle du corps et que c'était une bonne évolution. Derrière les deux vitrines donnant sur la rue, une belle surface était aménagée. C'était autrefois le lieu de présentation des viennoiseries et autres gâteaux qui faisaient saliver les passants. Paul avait rajouté à cet endroit des étagères, ce qui permettait de mettre des livres sur 3 niveaux. Une salivation multipliée par 3, pensait-il. Au fond du magasin, il avait laissé le vieux présentoir à pain en fer forgé qui sentait encore la farine. Il l'avait aussitôt recouvert de livres. Il ne critiquait pas les livres numériques. Il faut que le temps passe et que la technologie progresse, mais il aimait tout particulièrement les odeurs des choses. Non, il n'aurait pu peindre sur son ordinateur, par exemple, malgré la perfection des logiciels. Il avait besoin de toucher la surface à peindre, de toucher les pigments de sa peinture, d'en avoir plein les mains. Il fallait aussi qu'il puisse manipuler ses livres, en soupeser leur volume, en apprécier leur matérialité, les ouvrir maintes fois, les refermer, les rouvrir pour un mot, pour une phrase, pour une expression, une forme ou la couleur d'un détail qu'il voulait revoir. Une fresque le fascinait particulièrement. C'était la rencontre du roi Salomon et de la reine de Saba dans l'histoire de la vraie croix. Oh, cette rencontre! Oh, le regard du roi sur la reine! Depuis plusieurs années, c'est ce regard qu'il essayait de peindre dans sa maison à la campagne. Arriver à rendre ce regard était devenu le but de sa vie. Comme il était penché sur son livre préféré et qu'il recherchait une fois de plus les yeux mi-clos du roi, son attention fut retenue par un détail insolite. Il regarda la pendule, 5 heures de l'après-midi, l'heure banale, l'heure creuse, où rien ne se passe jamais et où l'ennui est à son comble. Mais là, il se passait vraiment quelque chose. Il connaissait par cœur ce livre qu'il avait sous les yeux pour l'avoir ouvert et fermé des centaines de fois. Et seul un habitué de ce tableau aurait pu dire ce qui avait changé sur cette page qu'il scrutait avec attention. Il crut un instant qu'il rêvait et qu'il avait hérité du livre de sable de Borges. Il alla chercher sa loupe sur le comptoir et revint en proie à une forte agitation. Mais oui, c'était bien ça. La numérotation des pages passait de 48 à 51. Il manquait 2 pages. 49 et 50 avaient disparu et l'on distinguait nettement au centre du livre avec la loupe le lieu d'où la feuille avait été retirée, très délicatement d'ailleurs, du beau travail, presque invisible. Stupéfait. Il téléphona immédiatement à sa nièce qui partageait la même passion que lui pour la peinture. Il ne pouvait pas garder cette découverte pour lui-même sous peine de devenir fou. Tout à l'heure encore, en ouvrant sa boutique, il avait admiré la page manquante. Il l'avait eue sous les doigts, sous les yeux. Il l'avait, une fois de plus, soumise à son jugement. Il n'était d'ailleurs pas exagéré de dire qu'il la regardait tous les jours, cette page. Un doute. L'avait-il vraiment regardé ce matin? Victorine arriva tout de suite. La nouvelle était de taille, car l'oncle Paul n'avait pas pour habitude de faire des farces. Oui, elle avait bien participé avec lui à la fermeture de la boutique la veille, mardi. Et ce livre était alors bel et bien intact. Ils avaient admiré ensemble l'œuvre en question, puis avaient rangé le livre à sa place habituelle, à l'écart des autres livres. Cela le rassura par rapport à sa mémoire, mais comment la chose avait-elle pu se produire? Personne n'était entré de 11h30 à 17h. Aucun client, malheureusement. Si, une personne. Et la clochette n'avait pas tinté. Il s'en était fait la remarque. Et alors, qu'est-ce que cela prouvait? Un jeune homme s'était renseigné pour un ouvrage sur Giotto et était ressorti sans l'acheter à cause du prix trop élevé. Paul ne l'avait pas quitté des yeux et lui avait promis de baisser le prix s'il se décidait vraiment. Non, tous deux pensaient que l'incident qui les préoccupait n'avait rien à voir avec ce visiteur, ou alors était-ce une feinte, une ruse, une tactique de diversion? Faire semblant de s'intéresser à Giotto pour éloigner les soupçons? Bof! Il l'aurait bien vu manipuler le livre. Tous deux réfléchissaient tandis que le téléphone sonna. C'était un de ses collègues libraires, marchand de livres d'art comme lui. Celui-ci venait d'être victime d'un vol étrange. Tous ses livres sur le Quattrocento avaient disparu d'un seul coup. Et il n'avait vu personne. Deux autres de ses amis libraires venaient aussi de l'appeler pour lui annoncer la même disparition. On pouvait maintenant appeler ça l'affaire. Cela devenait de plus en plus étrange en prenant de l'ampleur. Victorine eut alors une idée. Habituée depuis longtemps à effectuer des recherches sur Internet, elle tapa le mot « Quattrocento » sur l'ordinateur dont Paul se servait peu et, à son étonnement, elle retrouva toutes ses rubriques habituelles sans aucun changement. Les voleurs n'étaient donc pas des maniaques ou des traîtres internationaux, mais sans doute des petits voyous du quartier voulant faire une bonne blague au libraire. Mais comment avait-il procédé? Le mystère restait entier. Par acquis de conscience, elle tapa encore sans conviction le mot Piero. Elle revit la presque totalité de l'œuvre de l'artiste génial, au grand soulagement de Paul, qui était là, lui aussi pendu à l'écran. Cependant, un doute s'installa dans son esprit et, après des recherches plus précises concernant son œuvre, elle s'aperçut qu'un tableau manquait, toujours le même, sur tous les sites du peintre. Leur stupéfaction était à son comble. Ils cherchèrent encore et encore d'autres sites, tard dans la nuit, mais jamais ils ne revirent cette partie du tableau de l'histoire de la vraie croix qui montrait la rencontre du roi Salomon et de la reine de Saba. C'était le détail, celui des deux visages, qui avait aussi disparu dans la librairie de Paul, et il correspondait aux pages 49 et 50 de son livre. Ce détail de la rencontre avait disparu de tous les livres sur tous les sites. Ils restaient tous les deux hébétés par leur découverte. Cette disparition au sein de l'œuvre de leur peintre préféré était un véritable tour de force. Qui? Quand? Comment? Pourquoi? L'énigme était entière, à se taper la tête contre les murs. Elle dépassait de loin finalement les limites de leur quartier et prenait une ampleur internationale. Il n'y avait aucun indice, aucune trace de passage ou d'effraction, rien. Le crime était parfait. C'était mercredi. Ils se séparèrent très tard ce soir-là et ne trouvèrent le sommeil ni l'un ni l'autre. Le lendemain, Victorine revint voir son oncle pour discuter de l'affaire, chercher avec lui une explication, trouver un éventuel suspect. Mais ce fut en vain. Les autres libraires organisaient également des rendez-vous de discussion dans tout Paris pour essayer de comprendre un tel phénomène, puis ce fut dans toute la France, puis ce fut dans le monde entier que l'on parla de l'événement. Pierrot était connu dans le monde entier. Quand vendredi soir arriva, Paul, épuisé, s'éclipsa bien vite dans sa maison afin d'y retrouver la paix. En arrivant, quelques bruits lui parvinrent de la salle aux fresques, mais il ne s'en inquiéta pas, les loirs, les mulots et autres rongeurs s'y installaient régulièrement tous les ans. Il était si fatigué qu'il dormit jusqu'au lendemain soir. Samedi, reposé, il monta alors pour faire son mortier et entendit dans les escaliers les mêmes bruits que la veille. Il n'aperçut aucun petit mammifère, mais il crut une fois de plus qu'il devenait fou. Il voyait une silhouette éblouissante qui vociférait. Il se frotta les yeux, mais oui, il y avait bien quelqu'un sur son échafaudage en train d'appliquer des pigments sur sa fresque. Quelle vision extraordinaire ! Enfin vous voilà. Depuis des années je vous observe. À vouloir recopier mon travail, à vouloir le reproduire. Vous n'y arriverez pas. Une œuvre d'art est unique. Personne ne peut la refaire. Vous la détruisez. Je suis venu pour recommencer entièrement votre travail. C'est mon œuvre. Je vous défends d'y toucher. Paul s'approcha et vit Pierrot en gloire dans un halo de lumière. Il avait aussi devant lui la merveille d'Arezzo. J'ai refait cette étincelle dans les yeux de Salomon. Oui, il aimait déjà la reine dès sa première rencontre. J'ai fini votre fresque. J'ai volé tous les livres de la terre. Désormais ce regard ne sera plus qu'à Arezzo et peut-être aussi sur votre mur, prisonnier de la chaux. Servez-vous de votre propre imagination. Créez. Et ne reproduisez pas les œuvres des autres. Vous détruisez leur aura. Vous avez raison, balbutia Paul, très impressionné, mortifié, penaud. J'avais oublié le nom de Walter Benjamin. Puis Pierrot disparut. Il y avait, au pied de l'échafaudage, des tonnes et des tonnes de livres ouverts à la page de la rencontre du roi Salomon et de la reine de Saba. Fin de la nouvelle.